Deezer Originals. Écoutez les meilleurs podcasts sur Deezer et découvrez nos créations originales comme Sérieusement avec Pablo Mira, Nostalgie 2050 avec Thomas VDB ou encore Football Recall, le podcast de SoFoot.
Ouais Mathieu, on a reçu un nouveau mail de plainte. Parce que dans l'épisode de la semaine dernière, on s'en est pris au physique des gens.
On fait jamais ça, impossible.
Ben là ouais, je cite « Bourdin face à Deschamps, ce sont les dents les plus longues du journalisme face aux dents les plus courtes du foot français ».
Et qui, c'est RMC, la Fédé ?
Pire, c'est les dentistes.
Ah merde.
Qui nous envoient un mail.
C'est l'union de santé bucco-dentaire.
Exactement, ouais. Ils disent que c'est pas grave d'avoir des petites dents, que ça arrive et que ça n'a pas empêché Isabelle Alonso de faire une grande carrière.
Et c'est vrai qu'elle a fait une grande carrière.
Voilà, donc on s'excuse.
On s'excuse.
Football. Football Recall.
Bonjour et bienvenue dans Football Recall, l'émission qui prend les matchs les uns avant les autres. Tous les mercredis, sur les sites de SoFoot et de Deezer, on te spoil ton week-end de foot. Pendant 30 minutes, on va te raconter ce qui va se passer du vendredi au dimanche soir.
Et avec Football Recall, tu vas enfin réaliser ton rêve, devenir le roi du changement d'heure.
Ouais, voilà.
À 3h, il sera 2h. Mmh. À moins qu'à 16h, il soit 17h. Enfin bref, en une demi-heure, Football Recall va te faire voyager dans le temps et dans le foot de ce week-end.
Je m'appelle Thomas, mais Yamo Thomas. Ouais, je suis en train de prendre des cours d'espagnol.
Et ça paye, hein.
Ouais.
Et je suis Mathieu et voici le sommaire de ce 12e numéro. Cette semaine, notre reportage révèle la face la moins reluisante du foot. Des joueurs africains exploités par des intermédiaires véreux sont envoyés en Europe, puis livrés à eux-mêmes. Un agent témoigne pour Football Recall.
Au départ, on changeait les passeports, on changeait les âges, on faisait ceci, on faisait cela. Maintenant, je découvre qu'il y a un système de trafic du visa Schengen à 1500 euros la tête.
Le ballon du prochain mondial a été dévoilé. Et comme d'habitude, la corporation des gardiens de but râle et grogne. Notre jeu cette semaine s'intéresse à un élément très polémique de la tenue des footballeurs, le t-shirt.
Arbitre de foot, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion.
Et on va vous dire quelles banderoles vont déployer les ultras dans toute l'Europe.
Footaise, F-O-U-T-A-I-S-E.
Football Recall.
Et comme chaque semaine, on est accompagné par deux journalistes de l'équipe de SoFoot et Society qui viennent se relayer. Aujourd'hui, on accueille deux nouveaux.
Et oui, on est content d'avoir deux nouveaux du 109.
On accueille Christophe Glaise, qui est là, l'immense Christophe Glaise. Tu es journaliste pour SoFoot, notamment.
Yes.
Et comme l'a vu la tradition, on va te demander ton ASC, âge, sexe, club.
Oui, ben j'ai 29 ans.
Oui.
J'ai homme.
Ouais,
un homme.
J'ai pas français.
Et bien sûr, quel club autre que le PSG?
Ah,
on en a.
Alors, je crois qu'il y a un certain nombre de mots qu'il ne faut pas prononcer, sinon ça part en débat les grandes gueules.
C'est-à-dire lesquels?
Non. Je t'assure que je ne veux pas libérer le Kraken.
Ok.
Mon joueur préféré, c'est Thiago Silva.
Voilà, il l'a fait tout seul.
L'école des fans. On accueille un autre rookie, c'est David Svez. Ça va, David?
Ça va, et vous?
Ouais, tu peux me tutoyer, ouais. Tu sais, je suis pas non plus.
Je me dressais à la table, mais oui. Enfin,
ok, ouais. Déjà, calme-toi tout de suite et parle-moi bien. ASC, David.
Alors, 33 ans, je suis un homme,
oui.
Et supporter du PSG à tendance Kipembiste.
Aïe. Alors là,
vraiment,
ça va très mal finir.
Chaud. Ouais. Bien chaud, ouais, David. Ouais. Il est bien chaud. Tu es Kipembiste aussi.
Oui, j'aime beaucoup Kipembe, mais je pense qu'il faut lui laisser encore un an sur le banc à admirer le maître et après il va prendre la relève.
Ok. Il est chaud.
Je te préviens. Je pense qu'il vaut mieux qu'on commence tout de suite.
Basculons très vite dans le futur.
Vendredi, 16h.
David.
Oui.
Tu traînes souvent dans des endroits louches.
Parfois, peut-être.
Dans des caves.
Ça arrive.
Dans des casas de papel.
Histoire 2.
C'est mon cours d'espagnol.
Ah oui, d'accord. Tu apprends l'espagnol en regardant cette série de Netflix. C'est
ouais,
l'espagnol.
Exactement. Et du coup, David, tu as un gros réseau et tu sais notamment ce qu'on pourra lire en tribune ce week-end.
Claro que si.
Alors, samedi, il est avec moi dans mon cours.
Samedi, c'est Ligue 1. Marseille se déplace à Dijon. Donc, les supporters dijonnais vont préparer une banderole pour vanter les mérites de leur spécialité culinaire.
Mm-hmm.
Et donc, ils vont mettre « Mitroglou, notre moutarde, c'est mieux que ta tzatziki ».
Oui,
oui,
on est sur saveur du monde.
Ça sent que c'est la période de Top Chef.
Hein.
On sent, on sent. Une autre, David.
Alors, ce week-end, c'est aussi la finale de la Coupe de la Ligue entre PSG et Monaco qui se joue à Bordeaux.
D'accord.
Les supporters parisiens ont prévu de vilipender Adrien Rabiot qui serait accro à la chicha. Sur la banderole, les fans rouges et bleus vont lui adresser un message. Rabiot, le seul moment où tu charbonnes, c'est à la chicha.
Ouais.
Ouais. Je m'étouffe.
Je vois Glaise acquiesser. Donc,
oui.
On est plutôt bien. On
ou
a
en train de filminer, je sais pas.
On est d'accord sur Rabiot.
Ah non, j'adore Adrien.
Ah bon.
Ça commence.
Alors, le lendemain, nous serons 1er avril. Lille accueille Amiens au stade Pierre-Mauroy. Donc, pas de banderole prévu car le LOSC doit jouer tous ses matchs à huis clos jusqu'à nouvel ordre.
Et oui.
Pourtant, un ramasseur de balles ingénieux va profiter d'un ballon dégagé en touche à la 65e minute pour sortir une bandelette sous la technique Maoulida, bandelette où il sera écrit « Cindy, tu veux bien sortir avec moi ?»
on espère que Cindy acceptera.
On croise les doigts pour Cindy. David, tu as aussi un autre papier, tu voulais nous parler des tatouages de joueurs.
Exactement. Alors d'abord, je voulais savoir autour de la table si l'un d'entre vous est tatoué.
Non. Christophe, un tatouage PSG ?
Non, pas
un
tatouage de Thiago Silva.
Ah ouais, peut-être un initial TS peut-être.
Non, un dragon qui s'enroulait autour de mon pied, mais j'ai...
Tu as bien fait de réfléchir.
Pourquoi pas
réfléchir.
Oui, réfléchis encore.
Continue à réfléchir.
Deux, pourquoi ? Pourquoi un dragon ?
Pourquoi un dragon ? Même parce que c'est un animal mythique de la mythologie chinoise, voilà.
Et que Thiago Silva est chinois, c'est ton joueur préféré.
Okay, j'aurais pas dû poser de question, je regrette vraiment.
Bah, chacun ses choix. Hein.
Oui.
Alors, comme vous le savez, certains footballeurs sont accros aux tatouages, à l'instar des Yakuza ou de Swagmen.
Oui.
Certains joueurs sont tatoués de la tête aux pieds. On pense à Zlatan, Van der Ville, voire Memphis Depay.
Oui.
Alors, une mode pas vraiment appréciée par le gouvernement chinois. En effet, Pékin vient d'annoncer que les tatouages visibles sur les corps des footballeurs seront désormais bannis lors des retransmissions télévisées. Cette mesure concerne aussi bien les matchs de club que l'équipe nationale.
Ça, c'est une vraie news.
Ah, ça, c'est une vraie news. Breaking news.
Tatouage interdit en Chine.
Exactement. Alors, en attendant de voir les conséquences de cette mesure, on en profite pour vous donner des idées de tatouages à éviter si vous êtes en galère d'idées.
Ok.
Alors, on va commencer avec le tatouage mégalo pour Leroy Sané.
Ouais.
Entre ses omoplates, le joueur de Manchester City s'est tatoué un imposant portrait de lui, célébrant un but sans son maillot.
D'accord.
Ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'on ne sait pas à quel match le joueur fait référence, car sa seule ligne au palmarès est une Coupe de la Ligue qu'il vient tout juste de remporter cette saison.
Ok, ouais. D'accord, pourquoi pas.
Alors ensuite, il y a le tatouage gris du loto pour Sergio Ramos.
Ouais.
En plus de son tatouage avec une Champions League accompagnée des dates de ses 3 victoires en C1,
d'accord,
le capitaine des Merengues compte beaucoup de tatouages, dont 4 numéros sur ses phalanges. Alors il en a mis,
oui,
il a mis les numéros 35, 32, 19 et 90.
C'est les numéros de Lost.
Alors à votre avis,
non,
justement, que représentent ces chiffres selon vous?
Bah, ouais, je pensais que c'était les numéros qu'il fallait taper dans la trappe là, dans Lost.
C'est maillot, doit y avoir ces maillots quelque part, non?
Ouais, pas loin, justement, c'est bien. Donc il y a le numéro 35 et 30, alors numéro 35 et 32, c'est les numéros qu'il portait au FC Séville, son club formateur.
Tiens, tu vois.
Le numéro 19 pour son âge lors de sa première sélection avec la Roja. Par contre, pour le numéro 90, j'ai pas trouvé, c'est peut-être le numéro complémentaire.
Oui, le fameux. Un dernier ?
Et aussi, on termine avec le tatouage pas Bernard Pivot pour John Carew.
Ouais.
L'ancien attaquant norvégien s'est fait tatouer « Ma vie, mes règles ». Donc en anglais, cela donnerait « My life, my rules ».
Bien sûr.
Un peu en mode 50 Cent.
Ouais.
Problème, le mot « règle » ayant plusieurs sens, on ne sait pas si c'est pour cela jouer féministe ou rebelle. D'autant plus que le tatoueur a écrit le mot « règle » avec un accent aigu.
Faute d'orthographe.
Oui, alors que c'est un accent grave,
bien
mais
sûr.
Oui. Grave.
Donc John Carew a dans son cou un tatouage
avec une faute d'orthographe.
Et avec marqué « Ma vie, mes règles ».
Voilà. Messieurs les footballeurs, un conseil pour la prochaine fois que vous avez un doute sur le dessin, préférez un tatouage malabar, voire tout simplement du henné.
Oui, c'est toujours
oui,
chic le henné.
Très bon conseil, ouais, c'était le podcast de Femme Actuelle.
Vendredi, 20h.
À cette heure-là, dans 70 jours, qu'est-ce qu'on fait ?
On fait la fête.
70 jours,
c'est
qu'est-ce qu'on fait ?
C'est le mondial, non ?
Toi, tu pensais à la fête de la musique. Toi, t'as sorti ton djembé, t'es chaud.
Ben, bien sûr.
Mais non, c'est le mondial. Et on sera enfin entré dans la Coupe du Monde 2018 avec un match d'ouverture Russie-Arabie Saoudite.
Oui,
c'est pas facile à dire.
Tu le prononces.
Score final, 6-5.
6-5
ouais. Ouais, bah, faites pas les surpris.
Non.
Les gardiens de but avaient prévenu. David De Réa, par exemple, il en dit quoi du ballon de la Coupe du Monde ? Il prend des trajectoires étranges, c'est impossible de savoir où il va terminer sa course.
Ah ça y est, il commence déjà à cracher sur le ballon.
Pepe Reina, remplaçant De Réa, on va voir plus de 35 buts à cause de ce ballon.
D'accord, oui, oui.
Ter Stegen, titulaire d'équipe allemande,
ouais.
On a encore le temps de produire un autre ballon.
Bah lui, c'est les Allemands, hein, ils peuvent produire vite. Hein.
Donc le ballon 2018 serait donc acheté aux ordures. Alors c'est marrant, mais c'est ce que disaient déjà les gardiens en 2002.
Oui, bien sûr.
En 2006.
Buffon aussi. Buffon,
en 2010. Ouais, donc, merci de me casser ma chute.
Pardon, merde.
Donc les gardiens disaient ça déjà en 2002, en 2006, en 2010 et en 2014. Alors en 2002, le ballon s'appelait Fever Nova.
Oui.
Et le coach des gardiens belges disait qu'il était trop léger.
D'accord.
En 2006, révolution dans le petit monde des ballons.
C'est vraiment un petit monde.
C'est vraiment le petit monde des ballons.
Hein.
Tim Geist, c'était son nom, n'était plus cousu à la main, mais formé de 14 pièces thermocollées.
D'accord.
Commentaire de Paul Robinson, le gardien d'Angleterre. Même sans être frappé par Roberto Carlos ou Ronaldinho, le ballon bouge dans tous les sens.
Oui, mais c'est un gardien anglais.
C'est un gardien anglais.
Ça va,
d'ailleurs,
ça compte pas vraiment.
Je ferai remarquer que parmi les gardiens qui gueulent sur le ballon 2018, il n'y a pas d'anglais pour l'instant.
Pour l'instant.
Parce que les mecs se disent, bon.
Bon.
Déjà, ils n'ont pas de gardien numéro 1, les anglais.
Et ils ne verront pas la balle, peut-être.
Ils ne verront peut-être pas la balle. 2010, c'est le pompon de la pomponnette.
Ouais.
Jabulani, Si vous prononcez Jabulani près d'un gardien international, il convulse. Hein. Iker Casillas disait « c'est un ballon de plage ». Hugo Lloris le qualifiait de désastre.
Ballon de plage.
Et pour que Hugo s'énerve, il faut déjà y aller.
C'est vrai.
2014, rebelote, David Ospina, gardien de la Colombie. On fait de notre mieux pour arrêter les tirs, mais c'est assez difficile. Mmh. Et pourtant, la NASA, parce que oui, la NASA a analysé les ballons de foot, avait juré que ce ballon était fait pour les gardiens.
Bah, c'est leur mission principale, la NASA, c'est ballon-ballon. Bah,
ils sont à fond sur les ballons.
Hein.
Et donc, au final, on retient quoi de tout ça? Bah, que les gardiens sont des grincheux qui sont jamais contents, et vous allez voir qu'ils vont bientôt débarquer dans nos JT en criant « Il y en a ras-le-bol d'être pris en otage par ce ballon !» C'est comme dans tout bon
oui,
sujet sur les grèves
oui,
de SNCF.
Oui, bien sûr.
Pour finir, une pensée pour John G. Buffon.
Ah, bah, voilà.
Voilà qui, hein. Qui doit être bien triste de ne pas pouvoir gueuler cette année parce que son passe-temps favori à Buffon en juin, c'est de gueuler.
Ouais.
Donc 2002, Gigi, un ridicule ballon pour Gus. 2004, donc c'est l'Euro, il mm-hmm. est pire que le ballon de 2002. 2010, honteux et complètement inadapté.
Ouais.
2014, c'est une honte de laisser une compétition aussi importante que celle-ci se jouer avec ce ballon.
On dirait une vieille dame sur TripAdvisor.
Ouais, c'est exactement vraiment, ça, c'est exactement ça.
Infect.
Mais pas te manquer de sauce.
Infect.
Alors c'est sûr, il va nous manquer hein, oui. Gigi cet été. Hein.
Football Recall, samedi 21h.
Et il est 21h, et à 21h, les joueurs du LA Galaxy vont affronter l'autre club de Los Angeles.
Et tu dis LA.
Ouais.
LA Galaxy.
LA, et oui, il y a bien un derby en MLS, et oui, il y a bien deux clubs à Los Angeles.
En MLS, il y a deux clubs
ouais, le LA Galaxy et le Los Angeles Football Club. Mm-hmm. Tu savais pas, déjà, ça fait une info.
Ouais. T'es payé, comme t'es payé à l'info, c'est pas
ça
mal.
Ça tombe
là,
bien.
Un bon
après,
départ de
après, il n'y en a plus.
Un bon départ de
après, il n'y a que des blagues. Donc le Galaxy va probablement faire match nul un partout,
ouais,
sûrement.
Probablement.
Mais... Et probablement perdre, je sais ouais. pas, je me couvre. Mais c'est pas grave, les fans auront quand même la banane. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de signer...
Zlatan Ibrahimovic.
Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit
un
état des lieux? David Zlatan.
Oui.
Oui. Glaise.
Moi, Zlatan, je l'aime, je respecte le joueur, mais l'homme, faible
qualité. Ok, donc il n'y aura pas de tatouage de Zlatan.
Mais d'accord.
Très bien. Et finalement, Zlatan vient de s'engager ouais. au LA Galaxy, ouais. donc tout le monde est content. Sauf peut-être Graham Ruthven. Qui est ce Graham Ruthven?
Un journaliste. Il est anglais, non?
Ouais, un journaliste en anglais qui vient de signer une tribune assassine dans le Guardian, intitulée
Guardian.
Pourquoi le transfert de Zlatan est mauvais pour la MLS?
Ah,
ça rigole pas.
Tribune à charge, exactement, pour lui. Alors certes, c'est le plus grand joueur à rejoindre la MLS depuis Kaka, en 2014, qui va inévitablement sortir des énormes punchlines qui feront les go-titres.
Mm-hmm,
alors, ça, on l'attend. Mm-hmm. Et pourtant, il juge le transfert décevant.
Ouais.
Parce que selon lui, ça va à l'encontre de la dynamique actuelle. Pour le journaliste, la MLS a vraiment fait du bon boulot pour se refaire une image ces dernières années, loin de l'image de pré-retraite.
De maison retraite, ouais.
Exactement, mmh. qui était le cas en vogue ces dix dernières années. Évidemment, Ibra en prend aussi pour son grade. Bouge-toi les yeux, David.
Non.
Bouge-toi les oreilles, plutôt, David. Il dit, ses beaux jours sont derrière lui.
Bah,
oui,
effectivement.
Même lors de sa première saison à Manchester, il avait déjà des signes avant-coureurs qu'il avait perdu de sa fougue. Il rajoute aussi, avec le temps, il est devenu une caricature de lui-même. Mmh. Ou encore, la MLS ne doit pas laisser Zlatan devenir le visage de la Ligue, car ça ne reflète ni la vraie nature de la Ligue, ni celle du club. Et il a pas tort, hein, je crois, Mathieu. Il sort d'une saison pas terrible à Manchester.
Ouais, cinq matchs. Il marque pas, je crois. Il a pas marqué cette saison.
Zéro but, donc une saison quasi blanche.
Ouais, mais il a été pas mal blessé cette saison. Mais ouais. il le sera toujours.
Évidemment, plus, blessé ouais. parce qu'il a 36 ans.
Mm-hmm.
Et dans le foot, 36 ans, c'est très vieux. Et comme tous les petits vieux, Ibra migre vers le soleil.
Ouais.
Et donc voilà, Los Angeles, c'est un peu son canne à lui, évidemment, sans Christian Estrosi. Et puis de toute façon, à Manchester, avec Mourinho dans les vestiaires, ça faisait quand même deux gros molons, comme Lolo Ferrari. Voilà.
Bravo.
Bravo.
Alors, juste pour éviter les courriers venus oui. de la Côte d'Azur.
Ah, tu vois, j'ai eu Christophe.
Ouais, Christophe. Il aime pas. Christian Estrosi, c'est Nice.
Oui.
Cannes, c'est David Lisnard.
Oui, bah, c'est pareil, hein, ouais. tu sais.
Parce que je veux éviter les
bonnet
courriers.
Bonnet blanc et blanc bonnet.
Dimanche, 16h15.
Alors, dimanche, c'est jour de Coupe nationale en Israël.
Parce
qu'on n'a pas encore parlé de foot israélien dans
oui,
ce podcast.
C'est vrai.
Coupe nationale en Israël, les deux demi-finales dans la foulée, un grand soleil, 25 degrés dans l'air. C'est un moment qu'on a tous envie on a tous envie de profiter de ce moment, on a tous envie de le partager.
Oui.
Et surtout, il y avait un type qui avait envie de profiter de ce moment. Il s'appelle Jürgen Michael Klepitsch.
Ah. Oui.
Il est diplomate autrichien.
Il a fui après 45.
Alors, le problème, tu vois, n'anticipe pas trop les blagues, mais il était en poste à Tel Aviv, il a été expulsé d'Israël.
D'accord.
Pourquoi? Eh ben parce qu'il a porté un t-shirt frappé des mots « Stand your ground », tenez vos positions, et du mot « Fruitsberg », nom d'une division blindée nazie.
Ah, ben voilà,
ben
tu
voilà.
vois.
Une très bonne idée, un t-shirt nazi en Israël. Quelle bonne idée.
Humour autrichien.
Donc il est parti directement à Vienne, ou je ne sais où, en Autriche.
Oui, Innsbruck, bah, sûrement bref. En Amérique du Sud.
Ouais, peut-être pas en Autriche. Je pense. Donc loin de nous l'idée de fournir une ligne de défense à Monsieur Klepisch, mais dans le foot, des t-shirts qui ont fait scandale, c'est un peu banal. Oui. Ça arrive tous les jours. Oui. Et c'est le thème de... Mon jeu de
petit
la semaine.
Show.
Alors c'est les règles. Les règles sont hyper simples, c'est un QCM.
Vas-y, ok. Nazi ou pas nazi?
Non, c'est un QCM.
Dommage.
Donc je vous pose une question et il y a quatre choix. Vous choisissez un des choix. C'est un QCM. C'est ce que t'as. C'est ton bac. Tu l'as passé comme ça,
multi,
non?
Ben, mes cours d'espagnol, ça sera ça.
Pourquoi le Suisse? Donc, première question.
Por qué el sueco?
Pourquoi le Suisse? Xherdan Shaqiri a-t-il déclaré: j'espère que Puma ne fait pas de préservatif. 1. Parce que ce matin, quand il a enfilé son bonnet Puma, il l'a trouvé quand même vachement serré.
Non, c'est pas ça, je sais. Non.
Parce qu'il trouve le logo Puma un petit peu trop grand pour lui.
Non.
Parce qu'il voulait appeler sa fille Jaguar.
Non.
Parce que plusieurs maillots Puma avec lesquels son équipe a joué se sont déchirés.
Celle-là.
C'était en 2016 à l'Euro en France.
Bien sûr.
Suisse-France 0-0. 5 maillots suisses se déchiraient à cause d'un défaut de fabrication, heureusement résolu pour les matchs suivants de la Suisse dans l'Euro.
On a tous un point. Allez.
Tous un point. On commence petit.
Facile, hein,
ouais, on commence petit. Le maillot de l'Espagne a
créé... déçu pour l'instant.
Le maillot de l'Espagne a créé en novembre dernier une polémique à cause d'une bande violette.
Okay.
Que représente cette bande violette?
La bande violetta.
Une marque de soutien à Pascal Duprat, emblématique entraîneur du club de foot de Toulouse, capitale de la violette, comme vous le savez tous.
Non.
Ou alors un rappel du drapeau du régime qui a mené Franco au pouvoir.
Oui.
Ou la couleur favorite des indépendantistes catalans. Ou parce que purpura, donc violet en espagnol, signifie en galicien défaite.
Moi je dirais défaite.
Moi je dirais la B. Le drapeau, enfin par rapport à Franco.
Les aussi,
moi,
Franco.
Les indépendantistes catalans, allez.
Eh ben c'est David qui l'emporte.
Bien.
Puisque en novembre dernier, Adidas a dévoilé le maillot de la sélection. Trois bandes rouges, jaunes et violettes qui partent de l'épaule jusqu'au short. Un assemblage trop proche du drapeau de la Deuxième République espagnole, un régime qui s'est terminé par la guerre civile.
J'aurais pas dû changer.
Suivi de la dictature du général Franco.
Eh oui.
On apprend plein de choses. Hein.
On apprend, ouais,
c'est incroyable.
C'est bien. Hein.
Allez, troisième.
Allez.
En 1999, Lee Clark est viré de Sunderland à cause d'un t-shirt. Que voyait-on sur ce t-shirt? Première proposition. Un message qui insultait son propre club de Sunderland. Ou alors, la reine Elisabeth II dans une position lascive. Ou alors, le visage de Lady Di barré de cette inscription « Poteau, poteau, but ». Ou alors, un message qui disait « La bière, je déteste ça ».
Moi, je dis la reine Elisabeth II.
Ouais, pareil, parce qu'on touche pas la reine en Angleterre, c'est tellement c'est sacré.
Un message, excuse-nous à Stéphane Bern.
On ne touche pas la reine.
Très bonne imitation, très bonne, bravo.
Moi, je dirais contre Sunderland.
Et oui, exactement.
Oui, Mino.
Parce que là, Lee Clark, c'est un petit peu compliqué, enfin, un peu compliqué. Vas-y. Lee Clark jouait à Sunderland, mais son club de cœur, c'était Newcastle. Or, vous savez qu'il y a une très grande rivalité entre Newcastle et Sunderland.
D'accord.
Ok. Ouais.
En 99, Lee Clark assistait à la finale de la Cup entre Sunderland et Manchester United. Et il a été surpris avec les supporters de Newcastle. Et il portait un t-shirt qui disait « San Makem Bastards » et « Makem » à Newcastle,
c'est
un truc très péjoratif. C'est une façon très péjorative de nommer les mecs de Sunderland. Donc il a été viré, il a été immédiatement placé sur la liste des transferts et il a fini sa carrière à Newcastle.
Ah.
Dernière.
Ouais.
Jolie.
Juste avant.
Est-ce qu'on va parler de la reine encore?
Alors, je t'ai pas dit, mais il y a beaucoup de voix.
Alors, je crois que c'est la première imitation réussie qu'on a dans le podcast.
De Stéphane
tu avais testé une imitation une fois, je crois.
J'ai fait le reggaeton,
ouais,
je m'en
ça n'a pas marché. Ouais, après, et là, merci, David.
C'est la première fois qu'on imite Stéphane Bern dans un podcast de foot, je crois.
Est-ce qu'on continue à faire des imitations ou je finis le jeu?
Comme vous voulez.
Moi, je veux plus des imitations. No offense, mais j'aimerais beaucoup. Bon, après, les imitations.
En septembre 2017, le club de Montpellier a remboursé ses supporters qui avaient acheté un maillot du club. Quel était le problème de ce maillot? Première proposition, ils étaient tous floqués Loulou Nicolin. Deuxième, ils provoquaient de graves crises d'eczéma. Troisième, ils étaient fabriqués à Nîmes. Ouais. Quatrième, ils manquaient une lettre à Montpellier.
J'irai la dernière, à mon avis. C'est la plus marrant.
Moi, je dis qu'il manque une lettre à Montpellier.
Oui, moi aussi.
Et bonne réponse collective. Il manquait bien à elle, à Montpellier, cette bourde concernait tous les maillots. Alors, ils ont pas fait dans le détail. Hein. Tous les maillots produits pour la saison 2017-2018, aussi bien ceux portés par le joueur pro que ceux vendus aux fans.
Ok.
Comme on dit, oups, la boulette. Alors, avec un seul L, mais deux T à boulette. Hein.
Dimanche, 21h.
Il s'appelle Abdoulaye, Fallou ou Habib et dimanche soir, ils se remettront tous de leur week-end de foot. Comme leurs compatriotes du Sénégal, de Côte d'Ivoire ou de Guinée, ils auront joué dans les championnats français, portugais, allemand ou belge. Et oui, parce qu'en Europe, aujourd'hui, 23% des joueurs de première division viennent d'Afrique.
Quasiment un quart.
Et c'est énorme, hein, énorme. Et l'ONG Foot Solidaire estime que plus de 6000 mineurs quittent chaque année l'Afrique pour tenter leur chance en Europe. Et on rajoute juste un dernier chiffre, c'est 70% des footballeurs africains connaissent une situation d'échec, de chômage ou de blessure en passant sans oublier bien sûr les problèmes de faux papiers. Ouais. Christophe, toi tu t'es intéressé à tous ces joueurs africains dans un passionnant livre intitulé « Magic System » coécrit avec Barthélémy Gaillard. Et tu viens nous voir aujourd'hui avec un nouveau témoignage, celui de Paulo Teixeira, qui est un agent de footballeur africain. Est-ce que tu peux nous présenter en détail Paulo Teixeira ?
Paolo, c'est un gars que j'ai connu il y a déjà 3 ou 4 ans quand je me suis intéressé à Anderlecht. En fait, c'est un agent de joueur congolo-brésilien qui s'est notamment occupé de Roberto Carlos. Donc voilà, c'est pas
pas mal.
Ça vous pose le bon joueur.
Est-ce qu'il s'occupait
de ses mollets aussi?
Non. Et donc en fait, bon bah bien sûr, lui, il essaie de se faire des petits pourcentages à la revente de joueurs, mais de plus en plus en fait, ce qu'il fait, c'est du management juridique, c'est-à-dire qu'il aide les petits clubs africains qui se sont arnaqués à la chaîne à porter plainte à la FIFA pour récupérer les indemnités de formation qui leur sont dues.
Qui ne touchent jamais.
Voilà, et donc c'est pas vraiment un chevalier blanc du commerce équitable. Hein. Il prend 30% à chaque fois sur chaque opération, mais disons qu'il aide quand même les clubs africains à récupérer une partie de ce qui leur est dû parce que les clubs européens, en fait, de manière générale, ne paient jamais les indemnités de formation par attitude coloniale ou simplement, en fait, ils savent que les clubs africains en fait n'ont jamais les moyens de porter plainte sur le long terme à la FIFA et que s'en suivent des batailles juridiques longues de 6 ou 7 ans où il faut envoyer des fax à la chaîne. Bref, le plus souvent en fait ils noient le poisson avec des complicités évidentes au plus haut niveau.
Et Paulo Teixeira t'a révélé la dernière arnaque à la mode dans le foot africain, on l'écoute tout de suite.
Football Recall.
L'Africain, il est prêt à tout pour moi ce que j'appelle le foot people en relation avec les beaux people, tu dis qu'ils sont prêts à tout pour quitter l'Afrique et retrouver, disons, le petit rayon de soleil en Europe. Je t'annonce quand même une information que j'ai appris hier, et ça peut vous servir. Il y a tellement d'imagination dans le monde du foot, dans la fuite de l'Africain à la misère, que maintenant j'ai découvert hier, on m'a informé sur un réseau de trafic de visa Schengen. Au départ, on changeait les passeports, on changeait les âges, on faisait ceci, on faisait cela. Maintenant, je découvre, depuis hier, je suis resté 1 heure et demie avec un agent dans un pays africain dont je ne vais pas dire le nom. Il y a un système de trafic de visa Schengen à 1 500 € la tête, où on obtient des visas Schengen en 48 heures.
Claise, tu peux nous dire pourquoi un visa Schengen comme ça à 1500 balles, c'est intéressant pour des agents de foot africain ?
Parce que moi, quand j'ai demandé mon passeport, j'ai attendu un mois, donc ça va plus vite. Ouais.
Hein. C'est incroyable, en fait, ce qu'il révèle ici, parce que vous pouvez demander à n'importe quel agent licencié à la FFF, il va vous dire... C'est impossible pratiquement d'avoir un visa légal pour un joueur de foot africain quand vous voulez le faire venir parce que les ambassades sont paniquées à l'idée qu'ils disparaissent dans la nature comme c'est le cas 90% du temps. Mmh. Et en fait, on se retrouve face à des réseaux opaques, gris, bien établis, en gros avec des complicités aux différents niveaux des ambassades, des fédérations, des administrations. Et en fait, tout ça est fait pour en fait organiser l'exode des footballeurs africains et permettre en fait leur venue à moindre frais en Europe. Pour ça, en fait, ils ont besoin juste de payer 1 500 € et ils ont accès à 28 championnats.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, grâce à ce visa, ils rentrent dans l'espace Schengen, ils circulent comme ils veulent, c'est la libre circulation des personnes.
C'est donc là vers la réussite ou en tout cas le chemin, quoi.
Et ce que dit Paulo Teixeira juste avant, il dit ces visas Schengen, ça remplace autre chose qui était les passeports truqués avec l'âge truqué. Ça aussi, on entend souvent cette histoire de manipulation de l'âge des footballeurs africains. Est-ce que tu peux nous rappeler rappeler pourquoi c'est intéressant pour des agents qui veulent se faire du pognon de truquer l'âge des footballeurs?
Oui, alors souvent c'est les agents, c'est vrai, qui demandent aux joueurs de changer leur âge, mais quelquefois c'est les joueurs eux-mêmes qui le font. Tout simplement, c'est une pratique qui est instituée, je dirais que 90% des footballeurs nés en Afrique le font, et c'est tout simplement pour se rendre plus attractif sur le marché. C'est-à-dire qu'à niveau égal, si tu dis que tu as 25 ans ou 18 ans, bon ben tu n'as pas du tout, c'est pas le même attrait pour le club. Et donc ça, c'est vraiment une pratique qui a commencé à naître dans les années 90. C'est les Nigérians, les véritables inventeurs et boss de ce système. Je pense notamment à Tari Bowes qui a triché de 12 ans.
Obafemi Martins aussi.
Obafemi Martins, voilà. Non, mais il y a tout. Il y a Basile Boli, Samuel Eto'o. Tous trichent sur leur âge. En fait, Gervinho, j'ai vu, il a 3 ans de plus en réalité. C'est pour ça d'ailleurs qu'il finit en Chine. Ouais. Et qu'il est en Chine maintenant.
En fait, on se rend compte qu'en truquant l'âge des footballeurs, c'est uniquement donc pour faire augmenter la valeur marchande du joueur. Et finalement, tout ce que tu écris dans ce livre, donc Magic System, est-ce que nous raconte Paulo Teixeira, c'est qu'en fait c'est hyper spéculatif, quoi. Les joueurs africains sont devenus des espèces d'investissement, mais à des taux de rendement totalement hallucinants, quoi.
C'est la matière première la plus rentable d'Afrique. C'est bien simple, en fait. Donc on va changer l'âge, on va trafiquer un peu son identité pour le faire disparaître des fichiers des fédérations locales et donc ne jamais devoir d'indemnité au club formateur. Et derrière, on va le prendre et on va l'amener en Europe, et s'il perce, très vite, ça peut être 10 millions, 15 millions, 20 millions à la revente. Il n'y a qu'à voir les prix des transferts dans le foot aujourd'hui. Ça va très, très, très vite. Donc, les champions de cette pratique, c'est les clubs portugais qui vont mettre 80 jeunes Guinéens, Maliens, Sénégalais dans leur équipe réserve en D2. Et ils vont les parquer à 30 dans un 20 mètres carrés et attendre de voir celui qui perce. Et tout le reste, en fait, finit sans papier, clandestin, chassé par les autorités, en pleine galère, sans possibilité de retour au pays. Parce que 1500 euros pour le visa Schengen, mais le plus souvent, moi, ce que j'entends, c'est 3000 euros, 4000 euros qu'on leur demande pour graisser les pattes dans les ambassades et venir. C'est les économies de toute une vie.
Ça, c'est de l'argent qu'on leur demande. On demande aux joueurs
de
payer.
Oui. Donc,
c'est les
joueurs pour faire un test.
Les joueurs qui doivent payer pour aller faire un test.
C'est fou. La demande est tellement disproportionnée par rapport à l'offre que les footballeurs africains sont prêts à payer contre des promesses illusoires de vendeurs de rêves qui les arnaquent à la chaîne.
Mais je voulais savoir, quand tu dis complicité au niveau des fédérations et...
Toutes les fédérations africaines sont corrompues.
Africaines ou au niveau de... En Europe, il y a des soucis qui ont été
rencontrés. Bien sûr, en Europe, en fait, le pire, en fait, c'est au sommet de ce système, c'est les clubs européens qui organisent cet exode. Oui. Notamment, en fait, c'est difficile à systématiser, mais ils vont tout faire pour que le football africain reste à faible niveau, mal organisé, que les joueurs ne soient pas payés sur place, etc., pour pouvoir piocher allègrement et sans contrepartie dans cette main-d'œuvre bon marché, pas cher, comme l'a théorisé Willy Sagnol. Et leur but, en fait, est juste d'avoir une armée de réserve dont on peut toujours profiter assez facilement.
Oui, surtout que c'est un flot continu.
Ouais. Et pour clore cette discussion, il y a énormément d'informations dans le livre de Christophe, donc je pense qu'on y reviendra dans une prochaine émission.
C'est hyper intéressant.
Mais pour clore cette partie beaucoup plus économique, vraiment sur la spéculation, on va écouter Paulo Teixeira qui donne deux cas précis. Vous allez voir, les montants sont vraiment hallucinants. Les montants de plus-value sont hallucinants.
Football Recall.
Qui a été repéré sur, d'ailleurs, au 2-0 là-bas à Choisy, où les Camerounais font leurs matchs amicaux chaque week-end. Il a été repéré par un club grec, Pantakrikos, qui l'a saisi, regarde-moi ça, en août. Le mec, il a marqué 14 buts, il a revendu 1,5 million de dollars en mai en club en Italie. C'est-à-dire, tu prends un joueur à zéro, tu le mets en valeur, et 1,5 million, 7 mois après, tu le revends 1,5 million. Le cas de Chancel Bemba, c'est encore plus grave, parce qu'il a été payé 325 000 euros. Ils savent de l'histoire du trafic. Il a été revendu à 13 millions d'euros à Newcastle deux ans après. C'est la plus-value plus extraordinaire que j'ai vue dans le football.
Donc voilà, deux chiffres. Tu as un joueur, Christophe, tu vas nous dire les joueurs, mais en gros, tu as un joueur 1,5 million de bénéfices en 7 mois et l'autre 13 millions d'euros de bénéfices en 2 ans.
C'est un très très bon placement. Les gens qui nous écoutent, il faut oublier la crypto-monnaie. Là, c'est le football africain.
Juste, Christophe, est-ce que tu peux nous dire ces deux joueurs, donc 1,5 million?
Disons que le joueur qui est vendu à 1,5 million, c'est un joueur moyen. Donc voilà, déjà, quand on prend 40% sur le transfert à 1,5 million, on a de beaux joueurs devant soi. Et ça, vraiment, c'est un footballeur camerounais qui joue en Grèce. Vous voyez, ces cas se répètent à la chaîne dans tous les continents, parce qu'aujourd'hui, il y a un joueur sur quatre en première division en Asie qui est africain. Donc, vous imaginez le nombre de trafic qu'il y a dans le monde entier. Chancel Mbemba, c'est du plus haut niveau. C'est un joueur de plus haut niveau, clairement. Donc, lui, il a été recruté pour 13 millions d'euros par Newcastle. Mais le problème avec lui, c'est qu'il a quatre dates de naissance différentes.
Donc, bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire.
Donc, comme je disais, on y reviendra et on parlera plus.
C'est juste des objets spéculatifs, en fait. Le footballeur africain est une marchandise. Voilà, une matière première qu'on va soumettre à valorisation le long d'une grande chaîne de valeur ajoutée. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on multiplie les transferts avec les joueurs africains qui sont très dépendants de leur agent. Par exemple, une étude du CIES a notamment montré que les footballeurs africains, comparés à tous les autres footballeurs des autres continents, ont la mobilité la plus forte. C'est-à-dire qu'en moyenne, ils restent 2,8 ans dans un club. Ils font jamais voilà 3 ou 4 ans parce qu'on va multiplier les transferts, parce que c'est par le transfert qu'on crée de la valeur dans le foot.
Il y a encore énormément d'aspects dans ce dossier à explorer. Je pense sincèrement je pense qu'on y reviendra. En tout cas, le livre, ton livre, Christophe, ça s'appelle Magic Systems aux éditions Marabout.
Ça n'a rien à voir avec
les Marabouts, on en parle aussi dans le livre, et de leur influence néfaste. C'est des agents spirituels maintenant. Ah. Tous les footballeurs africains ont un marabout pratiquement.
Il est inarrêtable.
On y revient. Thiago Silva,
on y revient.
Il est chaud bouillant.
Je crois qu'on a bien fait le tour de ce week-end à venir. Vous savez déjà tout. Avant de passer au guide du week-end, Thomas, le petit service.
Oui, alors je déménage dans 15 jours. Si vous voulez venir avec un camtar, c'est ça, non ?
Moi je vends ma chaîne iFi, oui, Panasonic, non.
C'est ça.
Allez voter pour Football Recall sur votre appli de podcast préféré. Vous mettez un petit commentaire, vous votez, vous partagez,
vous
en parlez.
Les copains avec qui vous jouez au street, au five, partout, quoi.
On passe au match à pas rater ce week-end.
Football Recall.
Et on commence par toi, David, allez.
Alors donc, 3 Nice à 17h, déjà parce que Mario Balotelli, que j'adore, et aussi parce que depuis que Vivement Dimanche était déprogrammé, c'est dur de trouver un truc à la télé pour taper une sieste au calme.
C'est vrai que c'était bizarre.
C'est vrai que c'est difficile le dimanche maintenant, oui. C'est long, difficile sans Michel Drucker. Ouais.
Michel.
Mathieu.
Michel
Druck.
Attends,
salut mon pote.
C'est énorme,
on se reverra.
Bluff. C'est mi-Patrick Bruel, mi-Michel Drucker.
Oui, bon, ça va. On est en rodage, hein. D'accord.
Tu veux que j'aille ?
Tout à fait, vas-y Mathieu.
Alors mon match, c'est Nancy-Reims en Ligue 2. C'est samedi à 15h sur beIN Sport.
J'espère que c'est pas pour la sieste, hein.
Et c'est même pas parce que je suis de l'Est de la France, comme la moitié des gens qu'on invite dans ce podcast.
Trois quarts, ouais.
Non, je vais regarder Nancy-Reims pour me préparer à la saison prochaine, parce que Reims est largement en tête de la Ligue 2 avec 11 points d'avance quand même sur Nîmes. Et donc, sauf catastrophe, au cours des 8 journées restantes, Reims va revenir en Ligue 1. Donc autant prendre de l'avance et voir un peu ce qui se passe.
Félicitations, comme on a dit.
Alors pourquoi Reims est si fort ? Bah j'en sais rien, parce que c'est pour ça que je vais regarder le match samedi, parce que j'ai aucune idée.
Merci de l'analyse.
Sinon, bah juste un petit truc dans l'équipe de Reims, il y a l'héritier de Zinedine Zidane, c'est Marvin Martin.
Ah, bah oui,
vous vous souvenez, juin 2011, il rentre à la 76e, 2 buts. Et comme MM et comme c'était ZZ, c'est forcément l'héritier de Zidane.
C'est le deuxième nouveau Zidane après Mourad Megni.
Et puis Kamel Meriem aussi, il y a eu beaucoup. Hein. Voilà, donc c'est Nancy-Reims, samedi 15h sur beIN Sport 1. Qui veut y aller, Christophe, Thomas ?
Ah, moi, volontiers, ouais. Bah, moi, je vais être classique, mais ça va être dimanche à 21h, la finale de la Coupe de la Ligue, la piste aux étoiles, PSG Monaco.
Alors, est-ce que ce serait pas samedi à 21h ?
C'est samedi, je crois.
C'est samedi. Alors, voilà, bravo. Je suis perdu dans l'espace-temps avec vous.
Ce qui n'arrange pas du tout Glaise, qui avait prévu de regarder The Voice. Ouais. Du coup, il est dans la merde.
Exact.
Ah, mais samedi, c'est pas les 15 ans de SoFoot ?
Eh oui.
Eh bah oui, alors, je sais pas. Bah,
je vais faire un choix, mon pote.
Je vais regarder sur place, donc avec deux vodka Red Bull. À la santé de Thiago.
Je crois qu'il est chaud. Je crois qu'il est très, très chaud.
Il est chaud.
Ce qui est un peu triste, c'est que je pense que là, dans cet instant d'euphorie, il a oublié l'élimination.
Ah, en quelle élimination ? En Champions ?
En Champions.
Ah bah maintenant, je l'ai pas oublié, mais il faut c'est la vie en fait, il faut avancer, faut pas rester sur les échecs, faut toujours regarder plus haut et rêver plus grand.
Oui, oublions le match raté de Thiago Silva.
Oui.
Ça n'a pas été le pire. Hein.
Ce sera pas le dernier match raté.
C'est trop facile.
Allez Thomas.
Ok. Alors moi, je vais vous parler justement du championnat grec.
Ah oui. Bah oui.
Il reprend ce week-end.
J'adore tellement. Ah bah oui, c'est vrai. Ah oui, avec l'histoire du flingue.
Exactement. Après 3 semaines de suspension, on se rappelle que le président du PAOK Salonique, Ivan Savidis, tu en avais parlé, a été rentré sur le terrain avec un flingue à la ceinture.
C'était pas un taser donc.
A priori, c'était pas un taz. Et on a pris de ses nouvelles. Et bien, figurez-vous que ça va plutôt bien. Savilis vient juste de vendre son groupe à des Japonais pour une somme rondelette de 1,6 milliard de dollars. Mm-hmm. Hein, c'était une industrie du tabac. Ça marche bien. À mon avis, les négos ont dû être sympas.
Ouais.
J'imagine la scène. Hein, je me dis, comment ça, une offre à 1 million de dollars seulement? Foutez-moi, ça vaut beaucoup plus. Alors, attendez. J'en parle à mon avocat. Alors, mauvaise nouvelle, je viens d'avoir mon avocat là, et pour lui, l'offre n'est pas suffisante. Je suis désolé. Et autre déclaration de Ivan Savis qui s'est exprimé il y a quelques jours seulement, le 25 mars, à l'occasion de la fête nationale grecque. Mmh. Encore une info.
Ah, c'est ça, c'est vrai.
C'était vraiment la grosse fête. Ouais. Quoi. Et il a lancé, figurez-vous, un appel à la paix et à l'harmonie.
Ouais, oui, voilà, c'est ça. Vraiment ça. On entend bien la paix et l'harmonie. Là.
Il a aussi profité de cette occasion pour recommander à ses concitoyens d'embrasser les valeurs de la mentalité grecque. Comme, je cite, la spiritualité, le patriotisme et la quête de justice. Et on oublie l'humour, l'humour grec. Hein, c'est important l'humour, moins que les flingues à la ceinture, mais c'est quand même important.
Et Demis Roussos.
Une imitation peut-être de Demis Roussos.
Forever me. Mais, oh merde. C'est un
prends ça, Marc-Antoine Lebret.
Ah bah oui, alors là,
c'est fou,
on tient notre imitateur.
Football Recall.
Et merci d'avoir écouté Football Recall. Grâce à ce podcast, vous savez déjà ce qu'il va se passer sur les terrains ce week-end. Vous avez en plus entendu des imitations, une kyrielle d'imitations.
Incroyable.
C'est formidable.
Quelle palette.
On se retrouve
formidable.
La semaine.
Non. Il me fait signe que non, il ne l'a pas.
C'était quoi, Charlie Oleg? Tu voulais dire
oui.
Charlie Oleg?
Ah, pardon.
On se retrouve la semaine prochaine dès mercredi matin sur Deezer et sur le site de SoFoot. Car oui, maintenant c'est mercredi. On
oui,
a changé, on a avancé de 24 heures.
Voilà. Un jour de plus.
Merci David.
Merci à vous.
Merci Stéphane Bern.
Merci.
Ouais, voilà.
Vous êtes grand prince.
Merci Bernard Tapie.
Ouais, mon pote.
Ouais, incroyable. Ça démarre au quart de tour.
Merci Michel Drucker.
Merci.
Salut mon pote.
Merci Christophe Diglaise.
Merci, merci à vous. C'était superbe, comme d'hab.
Et n'oubliez pas.
N'oubliez pas, Football Recall, ça passe plus vite qu'un bouquin de Catherine Pancol.
Ah.
Football Recall.
Messieurs, dames, place aux enchères, 10 heures. 5 millions ici. Ah, ça s'emballe, 12 millions. 20 millions par là. Oh, 31 millions. 39 millions ici. 43 millions pour madame. 43 millions une fois, 43 millions deux fois, 43 millions trois fois. Allez, c'est cadeau.
Abonnez-vous à Deezer Premium Plus et profitez de plus de 43 millions de titres sans aucune contrainte, même sans réseau. Deezer, le streaming made in France.